C'est une photographie puissante, forcément, puisque depuis que je l'ai vue jeudi dernier, je crois, elle me hante. Un portrait en noir et blanc, un peu jauni, un peu passé. Quand on le regarde de plus près, les contours du visage sont flous, comme estompés. Et pourtant, on le reconnaît. Ou plutôt, il nous dit quelque chose, ce visage. Ça pourrait être un arrière-grand-père, un personnage de livre d'histoire ou un vieil oncle mort à la guerre. L'habit que l'on distingue, le chapeau, la moustache. C'est une drôle de photo parce qu'elle s'appelle le visage inconnu, alors qu'on le reconnaît, le visage. Elle a été réalisée à partir de dizaines de milliers de portraits d'hommes et de femmes qui ont vécu la Grande Guerre, une superposition qui a gommé toutes les différences et donné lieu à ce qui est commun à tous les hommes. Un visage inconnu, mais universel. Un visage dont la douceur des traits, l'intensité du regard, la mélancolie aussi, disent quelque chose de notre humanité et de notre mémoire. C'est au musée de l'Historial de la Grande Guerre, à Péronne, dans la Somme, que ce projet collectif a vu le jour à l'occasion des commémorations de la semaine dernière. Un homme qui incarne toutes celles et ceux qui ont vécu cette guerre. Pas un homme de pouvoir, mais qu'est-ce qu'elle en a, cette photo de pouvoir. Il faut bien qu'elle en ait, puisque même quand je ferme les yeux, je ne peux pas m'empêcher de la revoir.
Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous et bienvenue dans Boomerang. Qu'est-ce que le pouvoir pour mon invité d'aujourd'hui? Elle qui a vu défiler sous son objectif quelques-unes des grandes incarnations du pouvoir, de la reine d'Angleterre à Hillary Clinton, en passant par Oprah Winfrey. L'un de ses livres cultes, Annie Leibovitz au travail, vient de paraître en français dans une traduction de Delphine Nègre. Bonjour. Annie Leibovitz.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là. À quoi ça tient, le pouvoir dans une photographie?
You know, I've always been interested in telling a story.
Ce qui m'intéresse, c'est raconter une histoire, si je peux. Et parfois, les événements se précipitent sous vos yeux et c'est tout ce qu'on peut faire. Mais il arrive qu'on ait à mettre en scène une photo. Or, je n'excelle pas dans cet exercice. Je préfère observer. Et ce n'est que plus tard que j'ai été amenée à jouer ce rôle de metteur en scène, à diriger, surtout dans mon travail de portrait.
Alors, une photographie puissante, de pouvoir, c'est une bonne histoire.
C'est une bonne histoire et s'il s'agit d'un portrait, il faut qu'on y découvre quelque chose ou qu'il éclaire de façon inédite une facette du personnage.
Une personne de pouvoir, comment est-ce que vous la représentez, vous ?
Je me rappelle avoir photographié Bush et son cabinet de guerre. Je me souviens, j'ai regardé, j'ai observé la manière dont il se tenait comme un Texan, vous savez, les deux jambes solidement plantées au sol, les pieds largement écartés, une posture de pouvoir. Il portait des bottes et je lui ai demandé de poser comme ça, comme un personnage de BD un peu.
Par exemple, quand vous photographiez une femme comme Hillary Clinton, que vous avez suivie plus d'une fois au cours de ses déplacements, comment savoir quelle distance adopter? Comment vous parvenez à trouver votre place, Annie Leibovitz?
I learned very early on.
J'ai appris très tôt. Quand j'ai commencé dans ce métier, j'étais folle de Robert Frank et Cartier-Bresson et je voulais faire du reportage personnalisé. Puis quand j'ai commencé à travailler pour le magazine Rolling Stone, j'ai pu observer les journalistes et je voyais ceux de Life magazine. Et j'ai compris qu'en tant que journaliste, on était censé être objectif. Et à force de travailler, c'est devenu clair. Je sais exactement quand ça s'est passé. C'était au moment de la guerre du Liban et j'ai vu un photographe d'Associated Press réarranger un tas de fusils, quelque chose. Et je me suis dit, alors j'ai pris la décision, une décision consciente, de photographier avec un point de vue. Donc je ne suis pas vraiment journaliste et je ne m'en cache pas. J'ai un point de vue et je pense que ça donne plus de force à mon travail. Alors oui, après avoir exploré toutes sortes d'approches de la photographie, c'est pas facile de travailler avec quelqu'un comme Hillary Clinton. J'ai commencé à travailler avec elle quand elle était première dame. Et il faut que je vous dise qu'à ce moment-là, je ne la trouvais pas très sympathique. Il a fallu qu'elle se révèle à moi, qu'elle fasse ses preuves. Nous sommes partis ensemble en Afrique pour Vogue, et là, elle m'a vraiment impressionnée. Elle allait dans les townships en Afrique du Sud. Elle rassemblait les femmes dans une sorte de cercle de parole, les femmes du village, et chacune pouvait s'exprimer, parler de ses préoccupations. Puis, en bonne avocate qu'elle est, Hillary Clinton s'est écoutée, elle leur a livré en retour quelques idées, réflexions. Elle m'a impressionnée. Elle aurait fait une bonne présidente. Alors oui, ben voilà, je ne sais pas si je suis une bonne journaliste.
Qu'est-ce que ça change, Annie Leibovitz, ce moment où le sujet finit par vous convaincre, finit par vous impressionner, justement, ce que vous racontez à propos d'Hillary Clinton?
Maybe it's because I have a way in to see how to
peut-être que c'est parce que je vois comment la photographier, comment m'y prendre. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas photographier des gens que l'on n'aime pas. On sait, c'est impossible d'aimer tous ceux qu'on photographie. Mais moi, ça m'aide d'être sous le charme et admiratif. Bruce Springsteen, par exemple, m'a fait monter dans une voiture avec lui et j'ai un peu perdu mes moyens. Il y a des gens qu'on ne peut pas s'empêcher d'admirer. Mais pendant toutes ces années, ce que je voulais par-dessus tout, le plus important quand je partais faire une photo, c'était faire une photo. C'est ça ma priorité. Alors quoi qu'il se passe, je sais que l'essentiel est de prendre une bonne photo. Au point, quand j'étais plus jeune, d'ignorer un peu les gens. Je pensais que la photo était plus importante que de s'occuper d'eux. Je voulais juste que la photo soit bonne. Pour ça, j'étais prête à tout. Mais là-dessus, j'ai changé. Et c'est merveilleux d'avoir vieilli, de continuer à travailler, de comprendre un peu mieux son métier. On sait qu'il y a des jours avec et des jours sans. Il ne faut pas avoir peur. Et surtout, il ne faut pas hésiter à revenir s'il le faut. Nous ne sommes qu'humains, après tout.
Vous diriez que votre photographie a aussi considérablement évolué?
Je
n'étais pas une excellente technicienne de la photo à mes débuts. Je ne comprenais pas grand-chose à la lumière. L'éclairage, c'était très cru. Dans mes premières photos en couleur pour Rolling Stone, les couleurs étaient très vives pour survivre à l'impression sur papier. Mais quand même, au bout de 50 ans de métier, ce serait dommage de ne pas s'améliorer sur le plan technique. Mais est-ce que mon travail a changé? Oui, sans doute. Si vous regardez mes premières photos, c'était certainement plus fluide, c'était du reportage, sur le vif, mais je n'avais pas de vie à moi. J'étais toujours en mission et j'adorais ça. Plus tard, j'ai commencé à vivre pour moi. Je voulais avoir des enfants pour me calmer un peu, ralentir le rythme. Et aujourd'hui, je suis débordée, je n'ai plus de temps libre. C'est très bien.
Est-ce que l'amour, ça aide à faire une bonne photo, Annie Leibovitz?
Oh, yes. I mean, when I'm sort of pushed up against the wall about what is my favorite photograph.
Quand on me demande quelle est ma photo préférée, je pense à celle que j'ai prise de ma mère. Un portrait tout simple, destiné au projet sur les femmes que j'ai réalisé avec Susan Sontag en 1999. Elle a ce côté, on a l'impression qu'il n'y a pas d'appareil photo entre nous et que ma mère est simplement en train de me regarder. Une autre chose que j'adore dans cette photo, c'est que ça ne m'est pas donné tous les jours dans mon travail, cette proximité, cette intimité. Et je comprends, on ne peut pas. Vos proches, la famille, vos amis, ces photos-là auront toujours un peu plus de profondeur. Et si je devais citer la série de portraits que je trouve la plus incroyable, ce sont les photos de Georgia O'Keeffe par Alfred Stieglitz. Elle était sa muse et le modèle idéal, c'était elle-même une grande artiste et ils s'aimaient. C'est la série de portraits la plus extraordinaire que je connaisse.
Est-ce qu'il y a des gens que vous refuseriez de prendre en photo aujourd'hui, des hommes ou des femmes que vous ne pourriez pas prendre en photo?
Well, you know, I'm. When I was younger, well, maybe not even so long ago,
quand j'étais plus jeune, et jusqu'à une date récente même, j'avais peur de dire non à quoi que ce soit. Mais j'étais toujours surprise. On me proposait des contrats que je n'avais pas toujours envie de faire pour diverses raisons, mais j'y allais et j'étais toujours surprise parce qu'il en sortait. J'ai du mal à dire non. Je n'aime pas refuser. Mais je sais à qui vous pensez, celui qu'on a tous en tête. Je ne peux pas prononcer son nom, c'est trop dur. Mais oui, je suis tiraillée, c'est un vrai dilemme. Je me demande si je pourrais faire une photo avec notre président actuel. Je ne sais pas. Mais c'est qu'il ne m'inspire rien du tout. Je n'ai aucune idée pour lui. Mais bon, c'est un long débat. Il nous faudrait 3 jours pour en parler.
Celle qui refuse qu'on la prenne en photo dans cette émission, et ça arrange tout le monde, car croyez-moi, elle est bien laide, c'est la culture et son actualité qui fait décidément trop de manières. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 13 novembre?
Excelsior!
Spider-Man. Triste comics, Stan Lee, le créateur et scénariste des plus grands super-héros Marvel, nous a quittés hier à l'âge de 95 ans. Il est reconnu pour avoir donné ses titres de noblesse à la bande dessinée américaine en créant des personnages aussi iconiques que Spider-Man, les X-Men, Hulk ou encore Iron Man. Derrière sa moustache blanche et ses aviators fumés, celui que l'on surnommait Stan the Man avait fait des dizaines d'apparitions dans les films de ses super-héros cultes. Love was made for me and you. Ça va swinguer sur le rocher, car c'est aujourd'hui que commence le festival de jazz de Monaco, et c'est Gregory Porter et Robin McKell qui ouvriront la danse. Cette 13e édition se prolongera jusqu'en décembre et élargit son répertoire avec quelques incursions pop de Marcus Miller à Manu Katché, en passant par Benjamin Biolay et Melville Poupeau, il y en aura pour tous les goûts. Et pour couronner le tout, Boy George et son Culture Club, allez viens, on l'invite dans Boomerang, non?
So it's you, Mark, at 126 million.
Ceci n'est pas une belle somme. Un tableau de Magritte a été adjugé à 26,8 millions de dollars lors d'une vente aux enchères hier à la maison Sotheby's à New York. Cette toile, le principe du plaisir, a battu les records d'enchères pour le peintre belge, détrônant la corde sensible vendue l'année dernière pour 17,9 millions de dollars. À noter que d'autres œuvres ont largement dépassé leur valeur estimée, comme le tableau de Kandinsky, Improvisation auf Mahagoni. Easy. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Un colloque sur les tontons flingueurs est organisé à la Sorbonne Nouvelle aujourd'hui et demain. Ce sera l'occasion de se replonger dans les films cultes de Georges Lautner et les dialogues de Michel Audiard, d'y goûter, ce sont des citations, le pluralisme normatif harmonieux, ou d'étudier le monothématisme et l'athématisme comique de la musique des tontons flingueurs au service d'une sociologie du goût musical. Faut reconnaître, c'est du brutal. Annie Leibovitz, invitée de Boomerang ce matin à l'occasion de sa conférence avant-hier à Paris au MK2 Bibliothèque, ainsi que la parution de son livre Annie Leibovitz au travail. Quand, pour la première fois, avez-vous vécu votre première expérience photographique, Annie?
Je
suis allée à l'Institut d'art de San Francisco pour étudier la peinture. Je n'étais pas génial comme peintre. Je me débrouillais un peu mieux en dessin, mais je me suis inscrite à un cours du soir en photographie. En fait, je n'avais pas fini mes études quand j'ai été engagée par le magazine Rolling Stone. Ils pensaient pouvoir me payer des cacahuètes. Mais j'avais ces cours du soir et j'ai participé pendant l'été à un atelier photo. Et un jour, j'étais sur une plage avec la classe et j'ai pris une photo à travers la vitre d'une voiture. La photo avait un petit quelque chose de plus qu'un simple cliché. Alors ça m'a plu et j'ai changé de matière principale.
Vous vous souvenez de l'appareil photo?
Mon tout premier appareil photo, c'est triste parce que j'ai fini par le revendre, mais je l'avais acheté quand j'étais allé rendre visite à mes parents. Mon père était militaire dans l'armée, il était en poste aux Philippines et nous sommes allés au Japon. C'est là que j'ai acheté un Minolta SRT 101. Je ne savais même pas comment faire les réglages. Il y avait cette petite aiguille dans le viseur qu'il fallait tripoter. Mais ce que j'ai appris à l'Institut d'art, c'est que tout est question de regard. Peu importe le matériel. seul compte le regard. Peu importe le type d'appareil que vous utilisez, ce qui compte, c'est le fond. Le contenu. À l'heure actuelle, aucun des appareils que je connais ne me satisfait complètement, mais je suis les évolutions et je m'adapte. J'ai vu la disparition de la pellicule, et au lieu de rester là à me lamenter sur la fin de l'argentique, j'ai adopté le numérique, j'ai appris la technique comme tout le monde. Peu importe, l'important, c'est le regard.
Votre plus grand défaut en tant que photographe, c'est quoi ?
No, I actually know what it is, and that
ah,
is
je
that
sais.
When
je
I go to take photographs, having learned to take photographs,
quand je prends des photos,
by looking through the lens,
comme j'ai appris à photographier en visant à travers l'objectif, vous savez, on doit porter l'appareil à son visage, ce qui est ennuyeux quand on photographie un portrait ou des gens, parce que l'appareil vous cache le visage. Richard Avedon, Diane Arbus, ils utilisaient des Rolleiflex ou des appareils photo plus massifs qu'ils posaient sur un pied à côté d'eux, de sorte qu'ils pouvaient parler au sujet pendant la séance de pause. Mais moi, je dois poser mon appareil, puis le reprendre, ce qui explique que je ne sois pas très bavarde quand je fais des photos. Ça m'a toujours gênée.
Une question qui me taraude toujours. Comment on fait au terme d'une séance où vous avez pris des centaines de photos pour distinguer la bonne photo, Annie Leibovitz?
Well, I'm not so worried about how many photographs you
non,
take.
Le nombre de photos que l'on prend, c'est pas ça l'important. Je dois dire qu'en vieillissant, je fais des séances de plus en plus courtes. Et j'essaye de laisser le sujet respirer. Notre capacité de concentration n'excède pas 2 heures. Et c'est comme un enfant, au bout d'un moment, le modèle, ça ne l'intéresse pas tant que ça de se faire prendre en photo. Tout est dans la tête. Mais j'ai oublié votre question.
Vous le savez tout de suite, quand vous avez la bonne photo.
Il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi et comment retravailler une photo. J'ai eu la chance d'avoir une directrice artistique formidable, Bea Fettler, avec qui j'ai travaillé pendant mes dernières années chez Rolling Stone et mes premières années chez Vanity Fair. Elle m'a dit que je devais retravailler mes photos. Je ne comprenais pas bien ce que ça voulait dire. Mais on le sait quand on a la bonne photo. Quand j'ai photographié John Lennon et Yoko Ono, par exemple, à l'époque, on utilisait des Polaroïdes. J'ai tiré le Polaroid avec John et Yoko enlacés sur la moquette. John l'a vu et a tout de suite dit, c'est ça, c'est nous, c'est notre relation. Et nous n'avions pas fait beaucoup de prises. On sait quand c'est bon, on le sait. Mais il faut une longue expérience. Et puis il y a autre chose qui a évolué avec le temps. Au début, je ne savais jamais quand j'avais capté quelque chose d'intéressant. Les premières années, je ne savais pas quand m'arrêter. Je ne comprenais pas. Je travaillais à l'époque avec David Fenton. Il écrivait pour Rolling Stone. On était à Los Angeles pour un papier sur les Beach Boys. Et David me dit, bon, j'en ai assez, j'ai eu ce que je voulais. Et moi, je lui dis, quoi? Comment tu sais quand tu as quelque chose de bon? Je ne savais pas dire stop. Ça a été une leçon intéressante parce que ce que j'essaie de dire, c'est que vous n'avez peut-être pas la photo du siècle, mais il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Certains jours, le déclic ne se produit pas, et d'autres jours, il arrive très vite.
C'est une question de chance à vous entendre.
J'essaie autant que possible de pousser la chance de mon côté, de faire en sorte que ça marche. Mais oui, je ne sais pas si la chance est le mot qui convient, mais le photographe doit être préparé. Je ne rejette pas la pression, la responsabilité sur le modèle. C'est vraiment au photographe de faire en sorte que ça fonctionne.
Comment est-ce que vous définiriez votre rôle en tant que photographe, mais surtout en tant que portraitiste aujourd'hui, Annie Leibovitz?
J'ai l'impression de porter plusieurs casquettes aujourd'hui. J'exerce ce métier depuis si longtemps. L'histoire finit par s'imposer à mon insu. Les photos changent avec le temps. Mais tout ce travail a fini par former un corpus autonome qui a sa vie propre. C'est une chronologie, une histoire de notre époque, de 1970 à nos jours. Et j'ai une grande responsabilité par rapport à ça. Et puis tout ce qui se passe en ce moment, voir de jeunes photographes venir m'écouter parler,
C'est un
public jeune, plein de talent. Et puis, j'ai trois filles encore jeunes. J'ai conscience qu'en tant que femme photographe qui exerce depuis longtemps, j'ai une responsabilité en tant que modèle d'identification. Je l'ai compris encore plus avec mes enfants. Je ne peux pas me défiler. On doit faire ce qu'on a à faire. Donc j'aime encourager la nouvelle génération, la relève. Et je suis tellement fière de nous tous, les photojournalistes, les reporters, photographes, la presse, ils ne lâchent rien. Ils sont si passionnés. J'estime qu'on a fait ce qu'on pouvait à notre époque et qu'on doit passer le relais à la nouvelle génération de photographes et aux prochaines générations de femmes et aux enfants. C'est ce qui m'occupe beaucoup actuellement.
On va reparler de transmission, de regards, de photos, et puis de femmes, évidemment, juste après. Aretha Franklin, tiens, parce que ça fait toujours du bien. Don't Play That Song For Me, 1970. Vous êtes sur France Inter avec Annie Leibovitz. Vous écoutez Beau Monde. Don't play that song for me, 'cause it brings back memories of days that I once knew.
Sur France Inter, Augustin Trapenard.
Elle est assez impressionnante quand même. On sent qu'elle ne laisse rien passer, qu'elle est constamment dans une forme d'intranquillité, d'impatience, de mouvement aussi, avec ses grands cheveux blancs, ses lunettes aux montures noires, derrière lesquelles ses yeux vous fixent sans jamais vous lâcher. Tout est une question de regard avec la photographe Annie Leibovitz, invitée de Boomerang ce matin pour la sortie en français de Annie Leibovitz au travail. En regardant vos photos avec attention, j'ai remarqué que vos modèles ne souriaient presque jamais. Vous est-il déjà arrivé de demander à un modèle de sourire, Annie?
Yes, for many, many years, I never asked anyone to smile.
Alors, pendant très longtemps, je n'ai jamais demandé à personne de sourire. D'ailleurs, il y avait des gens qui me remerciaient quand je les priais de ne pas le faire. Et puis, je me méfie du sourire. Parce que ma mère, comme toutes les mères, quand on est petit, à chaque fois qu'on faisait une photo de famille, elle nous ordonnait de sourire photographe. Alors, je ne croyais pas au sourire. Mais certaines personnes ont un vrai sourire. Vous avez un vrai sourire à cet instant. Légèrement flottant, comme un peu perdu.
That is part of them, you know,
il y a des gens chez qui le sourire est indissociable de la personnalité. Mais d'un autre côté, je suis tellement lente quand je prends des photos. Les gens se fatiguent. Il faut presque un dispositif pour leur tenir la tête. J'aimerais qu'il y ait davantage de spontanéité dans les portraits, mais ce n'est pas le cas. L'exercice ne s'y prête pas. Mais l'absence de sourire me semble plus vrai, plus sincère. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est difficile d'obtenir un vrai sourire.
Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez apparaître un sourire forcé, justement? Qu'est-ce que vous dites?
Quelquefois, je leur dis, ne souriez pas. Mais vraiment. Dans ce livre, je parle du sourire à propos d'une photo de ma fille Sarah quand elle était bébé. Ce sourire plaqué, c'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps, mais quand c'est un vrai sourire, c'est tellement fort. Tellement fort.
Ça vous est arrivé, vous, Annie Leibovitz, de faire des sourires forcés?
I do them all the time.
Ah, mais j'en fais tout le temps maintenant.
I think before I had my children,
avant d'avoir des enfants, je crois que ma bouche tombait naturellement. Alors que maintenant, ces muscles du sourire se sont rechargés et ils se redressent. Ça change tout, les enfants.
Mais c'est une question passionnante. Pourquoi est-ce qu'on nous force à sourire tout le temps? Pourquoi cette injonction? Qu'est-ce que ça dit aussi de notre époque? Et là, je pense évidemment aux réseaux sociaux où chacun s'affiche avec son plus beau sourire, sous son meilleur profil, parfois même avec des filtres.
Yeah, I don't get it exactly.
Oui, je ne comprends pas ce phénomène.
Moi,
j'aime sentir un certain sérieux, entrevoir les pensées de quelqu'un dans son sourire et ses yeux. J'adore ça. Peut-être que je photographie trop de gens sérieux. Ah, les acteurs comiques que j'adore photographier parce qu'ils sont tous maniaco-dépressifs au dernier degré et ils sont tous géniaux. Mais quand on les rencontre dans la vraie vie, ils sont souvent ennuyeux à mourir et très, vous savez, tellement déprimés, vraiment au fond du trou. Et ils sont dingues et géniaux. J'ai travaillé avec des gens comme Richard Pryor, l'humoriste Lily Tomlin ou Steve Martin. J'adore leur énergie et leur folie, mais...
J'ai l'impression que ça dit aussi quelque chose de la photographie, parce que se faire photographier, c'est pas anodin, ça a toujours pour beaucoup quelque chose d'angoissant. C'est comme être pris au piège, parfois.
It's very psychological.
Ça se passe vraiment dans la tête, c'est mental. Il faut savoir s'accepter quand on pose pour une séance de portrait. Et je suis très ouverte, je ne suis pas directive quant à la façon dont le sujet se présente à moi. Il peut décider qu'il n'a rien à proposer, rien à projeter. Et ça me va, je trouve ça intéressant aussi. Et puis, il y a le sujet qui arrive parfaitement disposé. Je repense à ce coureur, l'athlète Carl Lewis. J'ai failli ne pas faire ce shooting. C'était au Texas, à la veille des Jeux Olympiques. Et il était incroyablement affûté, fin prêt. Pour lui, c'était le moment. Et je n'ai pratiquement pas eu besoin de parler pendant les prises de vue. C'était un moment si particulier, comme un rite de passage. Il arrive que l'on croise des gens à un moment extraordinaire de leur vie. Et puis il est allé décrocher 9 médailles d'or. Mais il était tellement mûr et préparé pour cet exploit. Et pour moi, ces photos sont fascinantes. Les mots étaient superflus.
Comment on fait, Annie Leibovitz, pour faire oublier la présence de l'appareil photo au modèle qu'on photographie?
Non, on n'oublie pas l'œil de l'appareil photo, il est là. Et on est là, pour faire une photo. Comme je vous le disais tout à l'heure, je suis là pour prendre une photo. Et si j'ai un secret, c'est celui-là. Je suis très directe là-dessus. Je suis là pour photographier. Je travaille avec toutes sortes de gens, mais s'il s'agit de quelqu'un de connu ou un artiste de scène, il voudra lui aussi faire quelque chose d'intéressant. Alors on collabore.
Et vous, quand vous êtes prise en photo, vous êtes à l'aise?
Je suis tellement doublé, je regarde ce qui se passe là-bas, ça m'est très difficile de poser. Mais c'est intéressant d'être photographié par quelqu'un d'autre, parce que si vous êtes un photographe, si c'est votre art, votre métier, si vous êtes photographié par un collègue, il faut le connaître, connaître son travail. On ne peut pas juste... Alors je ne me laisse pas photographier par n'importe qui. Mes filles prennent de belles photos.
La plus belle photo qu'on ait prise de vous, vous pouvez nous la décrire?
They're usually family pictures.
Ce sont souvent des photos de famille quand on est tous ensemble.
Because it's true happiness.
Parce que c'est ça, le vrai bonheur. J'adore voir ça.
Robert Mapplethorpe once did my
photograph. Robert Mapplethorpe a fait mon portrait un jour.
I had just been through serious rehab.
Je sortais d'une cure de désintoxication, plus aucune drogue ni rien, et je me rends chez lui pour la séance photo. Et il y avait des lignes de coke sur la table partout. Alors j'ai tourné la tête vers la gauche, et c'est le cliché qu'il a gardé, un profil.
Et qu'est-ce qu'elle dit cette photo?
I don't know.
I just think
it was the best idea from the session.
Je crois juste que c'était la meilleure idée de la séance.
Même
plaît cette photo.
And this is interesting about photography.
Parce qu'elle m'évoque, et ça c'est intéressant avec la photo, elle me rappelle cette époque et ce moment. Quand j'étais dans cette pièce avec Robert, et je me souviens que c'était difficile pour moi parce qu'il continuait dans la défense et j'avais pris un autre chemin. Mais c'était un grand artiste et j'étais fière qu'il me tire le portrait.
C'est sur ces images qu'on va se quitter. Annie Leibovitz, merci infiniment d'être venue faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Annie Leibovitz au travail est publiée aux éditions Faye Dong, c'est une merveille. Une leçon aussi, merci à votre interprète ce matin, la merveilleuse Eve Der. Tout de suite, les médias, Sonia De Villers. Juste après ça. Quatre, Juliette Armanet sur France Inter et on reste dans la photo avec Sonia De Villers ce matin.
Oui. Salut Augustin.
Ça va Sonia, j'ai cru un instant que vous aviez tellement perdu votre voix.
Non, pas du tout.
Vous en étiez réduite au chuchotement. Je vous embrasse et
ciao.
Je vous vois demain.